C'est vous, votre actualité, notre actualité, Jean-Marie Goriot, avec ce roman. Alors, Charline l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est l'histoire d'un écrivain alcoolique qui ne parvient plus à écrire, et c'est donc l'histoire d'un échec, c'est l'histoire d'une défaite. Et c'est pourquoi j'ai justement là un livre que votre narrateur aurait aimé adorer, qui s'appelle « Les grands vaincus de l'histoire ». Je les ai lus les deux en parallèle. Il se trouve que votre narrateur, c'est exactement ce qu'il est, c'est un grand vaincu de l'histoire, puisqu'il n'arrive pas à écrire la sienne. Alors, pour information, cette compile, elle est signée Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Hecht, et c'est une espèce de balade à travers les grands perdants de notre histoire, de Hannibal à Richard Nixon, en passant par Cléopâtre ou Che Guevara. Et on peut le lire sans être ultra aguerri en matière d'histoire, c'est le genre d'érudition accessible. Ça va vous plaire, Jean-Marie Goriot. Alors, pourquoi votre narrateur ressemble à ces grands vaincus de l'histoire, justement? D'abord, votre narrateur y voit trop grand. Il voudrait écrire comme Flaubert, il voudrait picoler comme Bukowski, et qu'est-ce qu'il fait, in fine? Eh bien, il recopie 1638 fois l'œuf est cuit, c'est-à-dire qu'il remplit 4 écrans et demi d'ordinateur de l'œuf est cuit, donc on est quand même assez loin de Flaubert, et il fait pipi, ivre, sur le petit cerisier rabougri de la copropriété.
Il veut user le réel, il veut abîmer le réel, le gratter voilà. Comme ça, jusqu'à l'absurde.
Donc, en attendant, ça donne quelqu'un qui fait pipi sur un petit cerisier dans une copropriété.
Qui lui parle, le cerisier lui parle.
Il lui parle, absolument. En tout cas, on est assez loin du panache un peu éructant de Bukowski. Eh bien, figurez-vous que comme lui, Hannibal, le grand héros carthaginois, il a fait exactement comme votre narrateur, il a essayé de se hisser à la hauteur de ses rêves et il n'y est pas arrivé. Hannibal rêvait d'anéantir les Romains, on est en mai 218 avant Jésus-Christ, et il a réussi à traverser les Alpes avec des éléphants. Alors c'est resté célèbre dans notre histoire, mais il faut imaginer 30 kilomètres d'éléphants qui traversent les Alpes. Et Hannibal a réussi à faire sauter des rochers avec du vinaigre, à terroriser les villes d'Italie, et tout ça pourquoi? Pour terminer reclus, paria, fuyard, avant de se suicider d'une rasade de ciguë. Il aurait pu dire « j'ai soif, mais soif », et en fait, juste, il se suicide. Alors, ils ont vu trop grand, ces deux-là. Mais quelle noblesse, finalement, de voir trop grand. Quelle grandeur à s'ignorer petit. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est l'essentiel.
Exactement. Pareil, bien sûr. Il existe un savoir perdre. Il existe un peu un panache de la loose. Et même parfois, mais là je cite la préface de Hecht et Buisson, un vaincu peut avoir des airs de vainqueur. Et c'est ce qui arrive à votre narrateur. Quand il tonne, il insulte, il envoie bouler son éditeur, le taxi, et que, je cite, « j'arrive chez moi dépenaillé comme un clodo », et qu'il persiste quand même à vouloir écrire un roman, alors que c'est quand même un peu une loca sociale, eh bien il y a du roi en lui. Il est dans une espèce de déni sublime. Je trouve que le déni est une certaine forme de majesté. Et il se trouve que dans Les Grands Vaincus de l'Histoire, les auteurs rappellent quand même la fin de Che Guevara. Le guerriero est terré au fond de la jungle bolivienne. Il est entouré de clochards, en fait ce qui reste de son armée. Et il se sait encerclé par l'ennemi. Il regarde sa cohorte de soldats maigres, sales, affamés. Et il dit cette chose pathologique et sublime qu'aurait pu dire votre narrateur. Je cite, nous sommes désormais des surhommes invincibles.
Absolument.
Tout crie à la défaite et à l'échec, et lui dit, nous sommes des surhommes invincibles. Et il y croit vraiment. Allez-y, vous vouliez dire quelque chose.
La destruction est quand même la base de l'art, la destruction est magnifique.
Voilà, il y a des chutes en forme de feu d'artifice.
Il faut mourir pour quelque chose de très beau. Dans ce moment-là, on devient la chose qui nous a tués.
Alors après, le déni peut prendre d'autres formes. Par exemple, pardonnez-moi, mais votre narrateur adore Marguerite Duras. Eh bien, quand elle écrit sur la mort d'une mouche, ce qu'elle a vraiment fait, et qu'elle note, je cite, « la mort d'une mouche, virgule, c'est la mort », votre narrateur trouve ça beau. Voilà, c'était juste un exemple de déni, mais c'était un peu...
Et Marguerite Duras, quand même, dans ce livre-là, écrit chez Gallimard, donc elle est à quatre pattes pendant 3-4 heures, comme ça, à regarder la mouche mourir. Elle dit, personne, on regarde mourir les hommes, on regarde mourir les chevaux et tout ça, mais personne ne regarde une mouche mourir. Donc elle reste à quatre pattes. Et après, dans le bouquin, elle dit, j'avais rendez-vous avec une copine qui devait venir dans la maison et je lui dis que j'ai passé l'après-midi à quatre pattes à regarder mourir une mouche et sa copine dit, faut que tu fasses attention.
Ben voilà. Et enfin, dernier point commun entre votre narrateur et ses grands vaincus de l'histoire, c'est qu'il y a l'idée de l'état de siège. Votre narrateur, il est calfeutré dans son appartement. Pour lui, l'extérieur est quelque chose d'hostile.
Le réel.
Voilà. Mais alors, le réel donc l'extérieur. Mais il se trouve que, de toute façon, s'il sort, en général, il est comme aspiré par un trou noir. Parce que s'il sort, qu'est-ce qui se passe? Il boit. Et après, il se souvient plus de rien. Il se réveille dans sa baignoire, avec des chaussures taille 45 aux pieds, et plusieurs appels dans son téléphone portable, aux pompiers, par exemple, ou chez Fauchon, et il se demande affolé ce qu'il a bien pu commander chez Fauchon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met du carton, ça, je trouve ça très beau, du carton sur ses fenêtres, et il regarde la rue par un petit trou. Mais à cet instant, Jean-Marie Gouriot, il est vers Saint-Gétorix, retranché à Alésia, comme votre narrateur dans sa cuisine, qui regarde les ennemis romains à travers les épieux plantés autour du campement. L'un et l'autre ne peuvent pas sortir. Quelque part, ils sont un peu condamnés, mais ils gardent le feu sacré. Je vous redonne les références, cette fois il y en a deux. Mmh. Il y a « Les grands vaincus de l'histoire » de Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Hecht, c'est paru chez Perrin. Et « J'ai soif, 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 mes soifs » de Jean-Marie Gouriot au Cherche Midi.